Grand Dialogue
Sigika Foba
et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chaîne Nibiru.
Halou Dmouni.
Chaîne Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce débat. Ce débat qui est consacré aujourd'hui au djihadisme à l'international et en Afrique. 2013-2014 ont été marqués par une intensification des activités djihadistes en Afrique et au Moyen-Orient. L'intervention de la force Serval, devenue souper l'opération Barkhane, a affaibli ACMI et les différentes organisations islamistes qui avaient établi leur sanctuaire au nord du Mali. Mais les attaques des djihadistes ont récemment repris dans le nord du pays. Trois attaques la semaine dernière sous le camp de la MINUSMA dans les régions du nord et encore un aujourd'hui. La MINUSMA paye un lourd tribut à la stabilisation du Mali. La secte de Boko Haram sévit au Nigeria et au Cameroun. En Libye et en Tunisie, la situation n'est guère meilleure. Et enfin, l'État islamique sème la terreur et la désolation au Proche-Orient. À cela, il faut ajouter les chebabs qui sévissent en Afrique de l'Est. De l'Ouest à l'Est de l'Afrique, le terrorisme gagne du terrain. C'est dans ce contexte que l'Union africaine tient depuis ce matin une rencontre à Nairobi sur les moyens de contrer le terrorisme. Pour en parler, nous sommes avec M. Ousmane Corneyo, spécialiste et prévention et la gestion des conflits. M. Ousmane Corneyo, bonsoir.
Bonsoir.
M. Bouakarba, spécialiste en gestion et prévention des conflits également au téléphone. Et le professeur Mamadou Samake, politologue au téléphone. Derrière ce microphone, Suleiman Kenza Sidibé et à la partie technique, Salim Diouara. Alors, Studio Tamani. Que craignent les chefs d'État africains? Le djihadisme s'internationalise-t-il? Faut-il avoir peur d'une interconnexion entre les groupes en sardine au Mali, Boko Haram au Nigeria, les Chebabs en Somalie et l'État islamique, la grande terreur des mouvements islamistes? Avec nos invités, nous allons apporter des réponses, comme je le disais un moment, à ces questionnements. Alors, M. Ousmane Corneyo, vous qui êtes spécialiste, que craignent-ils les chefs d'État africains?
Je crois que les chefs d'État africains ont beaucoup de choses à craindre. Parce qu'il y a une interconnexion de beaucoup de phénomènes. Le djihadisme, l'islamisme, le terrorisme. Et voilà trois mots qui se rejoignent en un seul contre les peuples arabes initialement, aujourd'hui les peuples africains et aujourd'hui presque tout le monde entier. À tel point que nous, musulmans, on se pose la question: est-ce que l'islam n'est pas devenu un vecteur même du terrorisme? Les pays africains, ils ont vraiment droit à la peur. Parce que quand on prend ces trois termes, le djihadisme s'apparente aujourd'hui à une manifestation des idéologies de terreur et de terrorisme. Et malheureusement liée à une religion. Et qui fait qu'on n'arrive plus à faire la différence dans certains milieux entre un musulman et un terroriste. Et c'est ça l'amalgame qu'il faut éviter. Et je crois que c'est ça que les gens veulent éviter pour qu'il n'y ait pas une islamophobie dans les pays où, qui sont de part musulmans et de part autres religions, et qui développent des problèmes de cohabitation religieuse, parce que le conflit religieux, qui est un conflit personnel, est très difficile et très compliqué. Et je crois que c'est ça qu'ils veulent appréhender, c'est ça qu'ils veulent anticiper. Et voilà pourquoi ils se réunissent. Avant eux, les pays arabes, même, ils avaient pris déjà une convention. Il y a 57 pays arabes, arabo-musulmans, qui s'étaient réunis et qui ont signé une convention. Malheureusement, ces mêmes pays signataires de cette convention sont victimes encore de ces islamistes, de ces djihadistes. L'Afrique se réveille, peut-être trop tard, mais il est temps de faire quelque chose.
Monsieur Bouakarba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous qui êtes également spécialiste en gestion prévention des conflits, est-ce que vous arrivez à percevoir la tenue d'une rencontre internationale au niveau de l'Union africaine par rapport au terrorisme, au djihadisme?
Oui, bon, moi je crois qu'on aurait dû faire ça bien avant aujourd'hui, parce que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Et vous savez, depuis le 11 septembre 2011, avec l'attaque du World Trade Center à New York, et les Américains ont déclenché la guerre contre la terreur ou bien contre le terrorisme. Et beaucoup de gens pensaient que ça n'arriverait qu'aux autres, quoi. Et depuis lors, on a vu des mutations profondes en Afghanistan et avec la guerre contre les talibans, après la guerre contre Saddam Hussein, et après il y a eu le printemps arabe, et maintenant l'arc sahélien, donc le Sahel-Sahara, donc depuis la Mauritanie jusqu'à la Somalie. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes traversés par des tendances et des courants islamistes. Ces courants, aujourd'hui, menacent non seulement les États, mais aussi les peuples en Afrique et aussi dans le monde. Donc les chefs d'État africains ont peut-être pris conscience de la gravité de la situation aujourd'hui, mais c'est une situation qui s'est révélée extrêmement grave et il y a une confusion de terminologie qui se pose et la conception que nous avons au Mali ici de cette question est différente de celle des Européens ou bien des chercheurs qui posent aujourd'hui la problématique. Voilà comment moi je perçois.
Quelle est la définition que vous donnez ?
Il n'y a pas une définition précise parce que le problème tourne autour de l'interprétation de l'islam. Chez nous, on pratique un islam apaisé qu'on appelle le soufisme. Alors que on nous amène, ou bien on a tenté de nous amener depuis plusieurs années, une vision de l'islam qui n'était pas connue chez nous, qui est le chiisme, et qui vraiment est lié avec le fondamentalisme. Donc il y a ces deux-là, le chiisme et le soufisme, qui sont deux tendances qui sont différentes. Donc c'est une question d'interprétation. On ne peut pas quand même parler de l'islam à un pays comme le Mali avec Tombouctou où depuis le 15e siècle, il y a un islam apaisé avec un enseignement. Donc vouloir nous amener, c'est vraiment une interprétation politique et qui a radicalisé. Et aujourd'hui, on ne se retrouve pas du tout. Et comme l'a dit Corneau tout à l'heure, il y a quand même un danger, je dis bien, de la vision de l'islam. Et nous sommes en plein dans ce 21e siècle, dans la guerre des religions.
Alors, concrètement, comment peut-on expliquer, si j'ose m'exprimer ainsi, la déferlante djihadiste aujourd'hui? Est-ce que c'est dû à l'absence de l'État ou bien c'est dû au comportement de certains individus qui veulent profiter de l'économie souterraine?
Bon, si nous prenons notre cas au Mali ici, moi je crois que c'est à partir des années 90, avec la crise algérienne, qu'il y a eu des mutations avec la création du FIS, du GSPC, ces groupements idéologiquement revendicatifs en Algérie, qui ont plombé l'Algérie pendant la décennie 90 et qui ont muté, si on peut le dire, qui sont mutés vers le nord du Mali et qui sont structurisés depuis le début des années 2000. Et nous payons le prix très fort, je dis bien, de ces mutations et la création de zones grises dans la zone de Témétrine au nord du Mali, dans le Ouagadou et puis dans les Tégrara. Donc nous avons laissé, en tout cas, nos gouvernements n'ont pas pu avoir la vision et la capacité de réagir, il faut se le dire, alors que d'autres pays à côté de nous ont vu venir cette situation, et nous sommes un peu le ventre mou. Donc en s'implantant dans notre pays, ils ont créé des liens avec l'international djihadiste. Je t'ai parlé tout à l'heure de la situation en Asie, en Afghanistan, et aujourd'hui la Somalie aussi, qui s'est complètement désintégrée. Donc tout ceci a des conséquences. Et pour le Mali, aujourd'hui, nous payons un prix très fort par rapport à cette sanctuarisation d'ACMI et la création d'autres groupuscules comme ACMI, et comme Ansardin et tout le Moujaou. Donc nous ne maîtrisons plus aujourd'hui notre espace. Et l'espace Sahel-Sahara ne correspond même pas à la vision géopolitique des États africains tels que la CENSAD a été créée, ou bien la CEDEAO, ou bien l'Union du Maghreb arabe. Donc nous sommes dans un autre environnement géopolitique qui complique la situation et qui fait qu'il y a une possibilité pour ces acteurs de se mouvoir et de bouger d'une zone à une autre.
Alors, M. Professeur Samake, Mamadou Samake, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue. Comment vous percevez aujourd'hui cette déferlante du mouvement djihadiste un peu partout à travers le monde, surtout dans le Sahara?
Bon, la déferlante djihadiste, c'est en combinaison avec le terrorisme, est un phénomène transfrontalier. C'est pourquoi j'apprécie mieux vaut tard que jamais la réunion des chefs d'État de l'Union africaine afin de pouvoir trouver une solution régionale à ce conflit qui ne mine pas que l'espace sahélo-saharien. Vous avez parlé tout à l'heure de Boko Haram qui agit, comment dirais-je, au Nigeria et au Cameroun, les Cheyebab, comment dirais-je, en Somalie, et la situation, vous l'avez vous-même dit, la guerre luisante en Libye et même dans le sud tunisien. Donc c'est à travers une réorganisation de nos forces de défense et de sécurité que nous pourrons faire face à ce nouveau phénomène de guerre asymétrique pour lequel nos armées ne sont pas formées.
Et selon vous, professeur Mamadou Samake, est-ce que ce phénomène est dû à l'absence de nos États, des États, ou bien c'est un phénomène de trafic structuré, organisé, et puis dont on donne un nom, un mouvement islamiste?
Bon, il faut reconnaître, en ce qui concerne le Mali, le manque de prospective pour faire face, comment dirais-je, au phénomène des salafistes qui ont été expulsés, comment dirais-je, de l'Algérie vers le septentrion malien. L'État n'a pas pu prendre, comment dirais-je, ses responsabilités de défense du territoire face à ce phénomène. À cela, il faut ajouter aussi la crise, les conséquences de la crise libyenne. Vous en souvenez, ces contingents de soldats dits d'origine malienne, des officiers libyens qui sont venus avec armes et bagages sur notre territoire. Donc, quelque part, on peut dire qu'il y a la faillite de l'État, mais n'oubliez pas que le terrorisme, le narco-djihadisme est lié surtout à un phénomène de trafic. Donc, ils cherchent à créer des espaces de no man's land où l'État n'existe pas pour pouvoir perpétrer ce trafic.
Monsieur Ousmane Kornio, la faillite de l'État, espace no man's land, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique cette déferlante la djihadiste?
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, et très généralement, le recours à la religion comme argument est un signe de désespoir. Ça, c'est la généralité. L'utilisation du djihadisme, qui est un mot d'abord arabe lié à l'islam, qui veut dire forcer pour avoir, contraindre pour avoir. Il s'agissait simplement de forcer et de contraindre les gens à s'islamiser. D'abord spirituellement, pour arriver en dernier ressort à l'utilisation de l'épée et de la force. C'est en dernier recours. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate aujourd'hui que de cette connotation, ce domaine islamique, on voit apparaître le terrorisme n'est pas islamique, la prise d'otages n'est pas islamique. Et puis ensuite, l'utilisation du djihadisme, si c'était en relation avec la gouvernance, serait attaqué simplement aux États, aux hommes.
Donc il y a eu un déplacement. Du concept djihadiste.
Maintenant, on s'occupe même à des pauvres, on a les enlèvements d'otages. À quoi l'enlèvement d'un otage a une relation avec le djihadisme et la religion? Ça veut dire qu'il y a autre chose, ça n'a aucune relation avec l'État. Et nous avons, comme il a dit, une économie criminelle qui est développée. Il faut trouver des stratégies et des actions, et ça en est une autre.
D'accord, nous allons observer la pause après pour revenir.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Ségou sur Radio Foco 100.8 MHz et la radio Sania 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issa Ber de Niafunké, 96.3 MHz.
Je rappelle aux auditeurs que le débat du jour porte sur l'international djihadisme et le cas en Afrique, sur précisément dans le Sahel. Et pour en débattre, nous avons au studio M. Ousmane Cornio, spécialiste la prévention et gestion des conflits, M. Bouakarba également, qui a les mêmes qualités, et le professeur Mamadou Samake, politologue. Alors, nous abordons la deuxième partie de ce débat. Alors, on se pose la question aujourd'hui, en dépit de tous les efforts de lutte, dans le cas du Mali, au nord du Mali, les djihadistes frappent encore. 3 attaques en une semaine et 1 attaque aujourd'hui même. Est-ce que vous arrivez à comprendre, M. Ousmane Cornio, vous qui êtes spécialiste de la question gestion des conflits?
Oui, moi je crois que je ne me suis pas trompé quand je l'ai dit qu'en fait que les gens parfois ils se trompent de cible. Le problème au nord du Mali n'est pas un problème de rébellion. C'est un problème des terroristes, des narcotrafiquants qui ont instrumentalisé un certain nombre de groupes pour pouvoir se servir de cet espace-là et exécuter leurs activités. C'est ce qui se voit. Pendant que les gens sont en Alger, on croit que ce sont les représentants des communautés avec les revendications claires qui sont à Alger pour discuter. Et on voit ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre ceux qui sont en train d'exécuter leur forfait sur le terrain et ceux qui sont en train de négocier. Donc ça veut dire qu'il y a deux combats à faire. Et le premier combat, moi je crois que c'est le combat de la sécurité, le combat de lutte contre le narcotrafiquant, de lutte contre les terroristes, de lutte contre les djihadistes. Ils existent, ils ont été suffisamment matés peut-être au départ avec l'opération Serval. Et c'est en cela d'ailleurs que je salue la transposition de Serval à Barkhane, qui se spécialise dans la lutte contre le terrorisme. Et je crois que c'est très bien vu. Et c'est par là qu'on peut régler définitivement, sinon durablement, la situation. Ce n'est pas par un accord en Alger, dans la mesure où l'accord en est une. C'est une décision. Mais pour que la décision puisse être appliquée sur le terrain, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et ces conditions, c'est la condition de sécurité. C'est la sécurité contre les djihadistes, contre les trafiquants, tels qu'on est en train de le voir. La ministre a malheureusement entré le pays et l'autre tribu pour ça.
Professeur Mamadou Samake, vous êtes avec nous?
Oui.
Vous êtes du même avis que le monsieur Cornio, Ousmane Cornio?
Bon, à l'origine, quand même, on ne peut pas nier qu'il y a une rébellion résiduelle au Mali depuis les différents chefs d'État de Modibo en passant par Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré jusqu'à aujourd'hui Ibrahim Boubacar Keïta. La rébellion est un fait, mais le djihadisme et le narcotrafic aussi sont devenus une nouvelle réalité avec laquelle il faut composer. C'est pourquoi j'insiste encore qu'il faut non seulement développer une coopération sous-régionale au niveau des pays du champ, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, plus le Burkina Faso, mais aussi il faut une dynamique sous-régionale à travers la CEDEAO pour pouvoir pacifier cette zone. Parce que au-delà des revendications légitimes des populations de ce septentrion qui ont été lésées par la nature, il y a aussi le fait que cette zone, si on ne prend garde, risque d'être, si vous voulez, une zone de non-droit ouverte à tout trafic et échappant au contrôle, comment dirais-je, de tous les États de la sous-région.
Donc vous avez une lecture compréhensible de la rébellion?
Bon, oui, parce que le phénomène...
Ok, nous allons nous tourner du côté de M. Bouakarba. M. Bouakarba, vous êtes avec nous? M. Bouakarba?
Oui, je suis.
Oui, vous avez une lecture compréhensive également de la rébellion, ou bien s'agit-il tout simplement des narcotrafiquants qui sévissent au nord du Mali?
Oui, la situation malienne a évolué depuis ces dernières années. Je disais tout à l'heure que depuis quelques années, nous étions confrontés à des conflits qu'on appelle des conflits conventionnels. c'est-à-dire les conflits autour de l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. Les zones comme le delta central du Niger et la zone Lacus, c'est-à-dire la région du Gourma et du Hausa, au nord du Mali, et aussi bien que le Sahel oriental, c'est des zones potentiellement conflictogènes. Mais ces dernières années, depuis 15 ans, nous sommes devant des nouvelles menaces, ce qu'on appelle des menaces hybrides. Et il faudrait voir un peu une sorte de connexion entre l'islamisme ou bien l'extrémisme religieux, le terrorisme et la rébellion. Ces dernières années, pourquoi la situation s'est complexifiée? Parce que les rebelles ont des liens multiformes et multidimensionnels avec ces groupes. Ils ont compris qu'en partant ensemble, c'est-à-dire avec la centralisation d'Acme depuis plusieurs années, et puis l'occupation progressive du terrain à travers des prêcheurs dans notre pays, ce qu'on appelle la Dawa, les Pakistanais, les Saoudiens, personne ne nie que depuis 10 ans, ces personnes traversent le pays et fréquentent les mosquées, bon, d'une façon visible ou invisible. Donc ces connexions ont fragilisé le pays. Et la rébellion aujourd'hui, c'est pour moi un pendant de ce terrorisme. Donc il y a plusieurs facettes. C'est pour cela que la situation est très difficile. Quand ça les arrange, c'est des rebelles, c'est des groupes qui sont face à l'État. Ils veulent peut-être se légitimer. Mais de l'autre côté, quand ils ont envie de faire mal, ils passent par ces voies islamistes ou ces voies terroristes. Donc nous sommes face vraiment à des menaces hybrides extrêmement difficiles à comprendre. Et je vous dis que les gens du Nord, qui ne sont pas dans cette logique, aujourd'hui sont vraiment complètement désemparés par rapport à cette situation. Et la lecture que les autres ont, l'extérieur, a de cette situation, elle est complètement différente de nous, notre lecture. Nous, comment pouvons-nous expliquer, durant ces dernières années, comment notre pays a été méthodiquement occupé par ces groupes dits islamistes? Comment ils ont pu nouer des relations avec les familles, des relations de mariage, des relations avec les tribus? Comment ils ont pu distribuer des biens, donc aller sur le terrain humanitaire, et qu'on n'ait pas pu réagir, qu'on n'ait pas eu une vision? Ça veut dire que vraiment, l'État a failli durant plusieurs années. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous payons un prix très fort par rapport à une mauvaise vision, par rapport à une mauvaise gestion stratégique, par rapport aussi à une mauvaise occupation sécuritaire du nord de notre pays.
Ok. Est-ce que vous arrivez à comprendre les négociations? Les pourparlers s'ouvrent en Algérie, les attaques continuent sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on a exclu certains mouvements de négociations? Je vais parler du Moujao, de Ansardine, M. Ousmane Cornio.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, on croit pouvoir négocier à Alger pour, avec les rebelles. Avec les rebelles par rapport à des revendications. Mais le Moujao n'a pas de revendications. Ansardine n'a pas de revendications. Les narcotrafiquants n'ont pas de revendications. Ils ont des intérêts à défendre. Ils ont des stratégies d'économie criminelle et qu'ils veulent défendre. Ceux-là, ils n'ont rien à faire avec une convention ni avec un accord qui va être signé. Et ce sont ceux-là qui sont en train d'être, qui sont en train de mettre, comment ça s'appelle, de faire la terreur sur le terrain. C'est le tribut que la ministre est en train de payer, c'est de ces gens-là. Et qui fait que, et malheureusement, on ne peut pas les mettre aussi sur la même table. Parce que se mettre sur la même table les rebelles qui semblent, s'ils sont rebelles, ça veut dire qu'ils se rebellent contre quelque chose dans des revendications et des djihadistes, ça veut dire déjà qu'ils sont confondus. Et alors, comme il y a un combat qui est déclaré, une guerre qui est déclarée contre les terroristes, bon, ici on les confond, on va aussi les combattre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont différents dans l'action. Mais comme Ba vient de le dire, il faut reconnaître que c'est vraiment très confus. C'est très confus, c'est selon les intérêts. Quand ça les arrange, ils sont rebelles. Quand ça les arrange pas, ils sont islamistes.
Ok. Voilà. Professeur Samake, Mamadou Samake, vous êtes avec nous?
Oui.
Oui, vous, en tant que politologue, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aller à la paix définitive au nord du Mali sans le Moujao, sans Ansardine?
Bon, le Moujao ne peut pas être impliqué dans le processus de paix qui est d'abord inclusif entre Maliens. Le Moujao n'est pas une structure malienne. Elle nous est venue du Nigeria et du Niger, du nord du Niger. Donc il est totalement exclu que le Moujao puisse faire partie, comment dirais-je, des négociations intermaliennes. Il faut combattre cette association. Quant à Amsardine, je crois qu'il est représenté au niveau des négociations, parce que le HUA n'est autre que la transformation de Amsardine. Celui qui est aujourd'hui président du HUA, je crois savoir qu'il était vice-président de Amsardine du temps où Yad Gali régnait à Kidal. Donc, le HUA étant la représentation de Amsardine à mes yeux, je crois que Amsardine est représenté, comment dirais-je, aux négociations. Ce qui dit, la paix est un processus. Hein. Il ne faut pas penser que malgré la conclusion, comment dirais-je, de l'accord de paix définitif à Alger, que la situation va tout de suite prendre fin. Et j'insiste encore, il faut une dynamique non seulement sous-régionale, mais régionale, et voire même internationale avec l'appui du système des Nations Unies pour pouvoir consolider le processus de paix sur le terrain, en commençant d'abord par défaire, comment dirais-je, le Mouzouaou. Parce que vous vous rappelez, l'opération Serval a pu mettre hors d'état de nuire seulement 1 000 000 de djihadistes sur 3 000 identifiés. Alors, où sont passés le reste?
Est-ce que l'opération Barkhane peut contribuer aujourd'hui à stabiliser le nord du Mali?
Absolument, absolument. Avec les moyens de renseignement et les moyens logistiques que la France a, elle peut beaucoup aider à former, comment dirais-je, nos armées à faire face à cette guerre asymétrique pour laquelle nos armées n'ont pas été formées, parce que nos armées ont une formation sur la guerre conventionnelle.
Ousmane Cornio, vous êtes du même avis?
Oui, absolument. Vous voyez, le Nigeria, qui a la grande artillerie de l'Afrique de l'Ouest, n'arrive pas à se défaire de Boko Haram. La technique à laquelle nos armées ont été formées sont des armées des formes conventionnelles de combat. Or, ces djihadistes-là utilisent des formes asymétriques qu'aucune de nos armées africaines ne peut combattre. D'où la présence de Barkhane, salutaire pour moi. Et peut-être que c'est le début. Et il faut une grande collaboration entre les armées maliennes, les forces de sécurité maliennes et les pays du champ même et Barkhane, et en termes de renseignements pour pouvoir venir à bout de ces narcotrafiquants et ces djihadistes.
Oui, Monsieur Bouakarba, en une minute, qu'est-ce que vous en dites?
Oh, c'est-à-dire la réaction ou bien la réponse, elle doit être nationale. Donc nous devons développer une politique de sécurité nationale. Et on vient de créer un comité, une sorte de conseil national de réforme des secteurs de la sécurité. Et un comité national a été mis en place depuis le 14, un décret présidentiel qui a été pris dans ce sens. Et il faut quand même intégrer les grands défis aujourd'hui mondiaux liés à cette question. Moi, je pense que le premier travail à faire, c'est vraiment d'avoir une armée forte, structurée, organisée, et puis qui doit être mise en place dans le cadre d'un contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Il ne faut pas se tromper, il faut qu'on respecte les principes des droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires, et qu'il y ait le contrôle citoyen. Pour qu'on sache réellement quel type d'armée nous avons, et qu'on définisse aussi, à court, moyen et terme, vraiment la nature de notre armée, et puis face aux menaces. Maintenant, tous mes collègues ont parlé du cadre sous-régional et international.
Y revenir, M. Bouakarba, nous allons observer la pause et nous revenons à vous.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Au-delà du Mali, l'Afrique dispose-t-elle des moyens de lutte contre le djihadisme, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens logistiques? Monsieur Boubacar Ba, vous qui êtes spécialiste en gestion et prévention des conflits, qu'en pensez-vous?
Oui, je disais tout à l'heure que le partenariat ou l'action sous-régionale est nécessaire. Là, il n'y a même pas à discuter. Depuis plusieurs années, il y a des prémices, il y a des initiatives qui sont mises en place au niveau du Maghreb et puis du Sahel. Mais la question essentielle, c'est que nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Quel type de réaction nous développons et quel type de réponse nous sommes en train de développer? On ne peut pas se reposer seulement sur les autres. Nous avons besoin de renseignements, nous avons besoin de contribuer efficacement. Moi, je crois qu'il faudrait développer une politique de sécurité nationale fiable et forte et engager une réforme du secteur de la sécurité. C'est-à-dire engager aussi la société civile dans ce processus-là. C'est-à-dire les acteurs communautaires ont un rôle extrêmement important. Et par rapport à la poussée de ce djihadisme-là, si les acteurs n'adhèrent pas, si les communautés n'adhèrent pas, moi, je ne vois pas comment ces gens-là vont prendre place dans notre pays. Donc, il faut qu'on développe des stratégies réellement fortes en direction des communautés pour les amener vraiment à adhérer à la vision de l'État, à l'esprit républicain et à sortir de cet obscurantisme. Sinon, le djihadisme se nourrit aussi de la misère, du manque d'emploi. Donc, nous sommes face à des défis multidimensionnels.
Monsieur Ba, la question, c'est est-ce que l'Afrique dispose des moyens aujourd'hui de lutte contre le djihadisme en termes humains, matériels et logistiques?
Il faut combiner toutes ces approches et puis vraiment amener l'État à avoir une vision très claire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis développer une approche de sécurité nationale hardie et forte. Voilà ma vision par rapport à cette question.
Monsieur Ousmane Cornio, vous qui êtes également spécialiste, gestion et prévention des conflits.
Oui, dire que l'Afrique a des moyens, l'Afrique n'a pas les moyens actuels. Mais l'Afrique doit se donner les moyens. Parce qu'en fait, c'est devenu une réalité. Le djihadisme, le narcotrafic, le terrorisme, ce sont des formes combinées et qui sont aujourd'hui une réalité pour l'Afrique. Ce fut une réalité pour les pays arabes qui ont plus de moyens que nous. Parce que ce n'est pas seulement un problème de moyens. Je disais tantôt que 57 pays arabes, arabo-musulmans, ont signé une convention de lutte contre le djihadisme, de lutte contre le terrorisme. Ils n'en sont pas arrivés là. Ils n'ont pas pu lutter contre ça. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans ces pays-là, c'est pire que ce qui se passe ici. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement les moyens humains, ce n'est pas les moyens matériels. Il y a toute une dynamique sociale. Comme je le disais, la religion, le recours à la religion est un signe de désespoir pour la résolution d'un problème. Désespoir des communautés, désespoir des jeunes. Quand vous voyez tous ceux-là qui sont attirés par les djihadistes, vous voyez même en France, les jeunes qui quittent la France pour aller rejoindre la Syrie. Je lisais un article ce matin, la relation entre la délinquance et le djihadisme. C'est-à-dire on a suivi l'itinéraire de ces jeunes qui partent et on se rend compte, à la limite, ce sont tous des anciens délinquants. Donc ça veut dire que ce sont des phénomènes de société, de pauvreté, de gouvernance, de désespoir auxquels il faut apporter des réponses. Donc l'Afrique doit se donner les moyens d'abord de nourrir ses populations, de donner du travail à ses jeunes pour qu'ils se détournent de la religion, mais se donner aussi des moyens organisés au niveau pays, au niveau régional, au niveau sous-régional international et de lutte contre ces phénomènes-là.
Professeur Mamadou Samake, c'est la même vision chez vous. Il faut que l'État soit présent pour, en termes d'assumation des besoins de ses concitoyens, en termes de sécurité.
Absolument. Une des missions régaliennes de l'État, c'est d'abord assurer la sécurité non seulement des frontières, mais des biens et des personnes à l'intérieur du pays. Donc, je suis du même avis que M. Ba, qui disait tantôt qu'il faut d'abord une réforme de notre secteur de défense et de sécurité. Et cette réforme doit nécessairement inclure le processus de désarmement communautaire. C'est dire que les communautés à la base ont un rôle prépondérant. Le trafic des armes, des armes légères et de petit calibre, à pignon sur rue, comme on dirait dans l'espace sahélo-saharien, sans une coopération avec les populations à la base, il est évident que ce phénomène ne pourra pas être éradiqué. Donc ça commence d'abord par renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité à travers la réforme du secteur, mais absolument par une coopération régionale en termes de renseignement, voire même internationale. Qu'il faut réadapter nos forces de défense et de sécurité à cette nouvelle donne qui est la guerre asymétrique.
Est-ce que vous faites des soucis aujourd'hui par rapport à une possibilité d'interconnexion entre l'État islamiste et les groupes armés au nord du Mali, par exemple, ou dans le Sahel?
Vous savez, en la matière, rien n'est à exclure. Hein. On a vu Al-Qaïda, admis au Maghreb islamique, s'est tantôt proclamé un moment étant la branche maghrébine, comment dirais-je, de Al-Qaïda. Donc rien n'est à exclure dans ce phénomène. Parce que le djihadisme, c'est une instrumentalisation de la religion. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, à son époque, a cohabité avec d'autres religions. Donc ce n'est pas un problème de coexistence interreligieuse, c'est une forme de théocratie structurée, fondée, comment dirais-je, sur des intérêts narcotrafiquants qui ne disent pas leur nom.
Monsieur Ousmane Cornio, comment vous voyez la mobilisation de l'Afrique face à ces phénomènes?
Oui, l'Afrique, comme je dis, mieux vaut tard que jamais. La réunion de Nairobi est un signe fort, une prise de conscience de nos politiques, de nos administrations. Mais aussi, il faut, comme Bala dit, et il faut aussi que les communautés se mobilisent. Parce qu'en fait, et comme je disais initialement, les narcotrafiquants, les terroristes, les djihadistes s'attaquaient à l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement à l'État, c'est même aussi aux populations civiles. On voit ce qui se passe au Nigeria. Ce ne sont pas des soldats qui ont été enlevés, c'est des jeunes filles qui ont été enlevées. Et quelle est la relation entre la religion et l'enlèvement de ces jeunes-là? Qui fait que, je crois que les États doivent s'organiser, ils vont désormais mettre en place leurs forces, ils vont faire appel à l'opinion internationale, aux forces internationales, pour avoir des moyens peut-être de lutte militaire, mais je crois qu'il y a aussi des moyens de sensibilisation, de formation et de réponse aux besoins des populations, besoins des jeunes pour que ces jeunes-là puissent se défaire, se détourner de l'attraction que leur proposent les djihadistes.
Monsieur Boubacar Ba, comment l'Afrique doit se mobiliser pour faire face au djihadisme?
Mais il faut se donner la main, il va falloir développer un système de renseignement très poussé et essayer de travailler ensemble, qu'on sorte un peu des micro-États, qu'on sorte de nos visions partisanes et que les États travaillent. Parce que cette menace aujourd'hui, djihadiste ou islamiste, prend une ampleur extrêmement grave. Et les liens que ces acteurs ont avec d'autres groupes, on a parlé du terrorisme et du narcotrafic, mais d'autres questions comme la migration clandestine et le trafic de migrants trouvent leur source dans ce terreau. Et il va falloir qu'on réfléchisse, parce qu'il faudrait aussi travailler dans la recherche dans ce domaine. On est en retard ici chez nous, et en Europe, il y a des centres de recherche, des centres d'études stratégiques qui réfléchissent sur les années à venir. Il va falloir qu'on essaie d'intégrer ces visions aussi pour que nous puissions étudier nos sociétés. Parce que c'est au sein des sociétés que cet islamisme se développe. Je crois que nos États n'ont pas de choix. Le 21e siècle est un siècle de violence et de guerre de religion. Et surtout, nous voyons aujourd'hui la religion islamiste est indexée. Et si ça continue, ça va être très compliqué pour nous dans les années à venir. Je pense que le débat est ouvert. Il va falloir s'y mettre et puis travailler sérieusement pour que nous puissions sortir de cette situation.
Professeur Mamadou Samake, l'Afrique doit mettre les mains ensemble, sortir des micro-États. Qu'en dites-vous?
Absolument. Aucune armée africaine prise individuellement ne peut faire face à ce phénomène. Et, c'est pourquoi je salue l'idée qui avait été prise au sommet de Malabo en Guinée équatoriale pour la mise en place des forces d'intervention africaines. Ça pourra se faire au plan continental comme au plan régional. Renforcer des dynamiques sous-régionales en termes d'intégration d'efforts de défense et de sécurité, non seulement en termes de moyens, de renforcement de l'aptitude opérationnelle des troupes, mais aussi en termes de moyens logistiques pour pouvoir faire face à ce phénomène qui menace même la stabilité, voire l'existence de nos États.
Monsieur Ousmane Cornio, vous voyez la solution à travers les forces africaines ?
Oui, les forces africaines, oui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que... moi, je ne suis pas aussi pessimiste que les autres. Hein. Parce qu'en fait, ici, les actions qui sont en train d'être menées avaient des origines religieuses. Étaient basées sur des convictions religieuses. Là, j'aurais peur. Dans la mesure où ce serait des conflits personnels et qui sont difficiles à résoudre. Or, on se rend compte aussi qu'il ne s'agit pas de convictions religieuses. Il ne s'agit pas de guerre de religion. Il s'agit de guerre de narcotrafiquants, de bandits, de terrorisme. Ce sont des crimes organisés par rapport auxquels il faut des actions rigoureuses. Et je crois que là, les pays africains organisés, aidés par les pays européens, les organisations internationales, les États-Unis, et qu'ici, ça ne va pas chez nous, ça va aller chez eux. Il y a une interconnexion entre ces phénomènes-là. Et je crois que Baladi, le 21e siècle, est un siècle de terreur. Et qu'il va falloir l'Afrique, le monde entier, réorganiser et s'adapter à ce type de phénomène et à pouvoir trouver des solutions.
Monsieur Bouakarba, les forces armées africaines pour faire face au terrorisme, au djihadisme ?
Et on n'a pas les mêmes réalités. En tout cas, il y a des pays qui ont montré qu'ils peuvent faire face. Le Tchad, aujourd'hui, a une armée très forte. À côté de nous, le Niger aussi a résisté. Il y a un pays qui fait frontière avec la Libye, avec l'Algérie, avec le Mali, a pu, malgré l'immensité de son territoire, la Mauritanie aussi a pu tenir. Nous sommes aujourd'hui, malheureusement, le pays qui a été vraiment victime. Il va falloir qu'on tire toutes les leçons et qu'on s'engage franchement à travailler pour résister, avoir une armée forte, mais aussi à travailler avec les autres acteurs communautaires pour que nous puissions vraiment tenir face à cette péril.
Professeur Maurice Maquet, le mot de la fin, en 30 secondes.
Bon, le mot de la fin, nous, d'abord, on salue le processus de paix engagé à Alger et en ayant l'espoir que ça va aboutir à un accord de paix définitif, mais il faut qu'à l'interne, nous travaillions dans la prospective pour tirer toutes les leçons de ce qui nous est arrivé afin de dégager des dynamiques pour pouvoir prévenir à l'avenir cette situation déplorable non seulement pour notre État, mais pour nos populations.
Monsieur Bouakarba, en quelques secondes.
Je pense que nous sortirons de ce qui se passe actuellement en Algérie avec la feuille de route et puis les négociations. Et il va falloir prendre en compte toutes les dimensions sécuritaires, les dimensions liées à la montée de l'islamisme et puis le terrorisme. Je crois que si on s'y met, nous avons la capacité de réussir.
Monsieur Ousmane Cornio,
nous plaçons tous nos espoirs à ce qui se passe en Alger, mais n'oublions pas ce qui se passe sur le terrain parce qu'il y a des acteurs qui sont sur le terrain et qui ne sont pas à Alger et de qui il faut avoir peur.
Okay. Merci à vous, merci aux auditeurs. Le débat de ce soir est terminé et nous avions comme invité M. Ousmane Cornio, spécialiste de la prévention et de la gestion des conflits, M. Bouakarba, spécialiste également de gestion et prévention des conflits, et le professeur Samake, qui enseigne à l'université de Bamako. Derrière ce microphone, il y avait Suleiman Kenza Sidibé, à l'antenne Salim Djouara. Merci, à demain.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.